c'est pas la première fois, là. Puis je me disais, comment ça se fait? Puis là, momentanément, mon esprit a été comme troublé. Mais tout de suite après, le Seigneur a amené dans ma pensée que, oui, mais le bon berger, c'était lui. C'est lui qui prend soin de nous. Ce qui fait que, ben, de là est venu là, le contenu de ce que je vais partager avec vous ce matin. Et dans Jean, au chapitre 10, Jésus nous a dit qu'il était notre bon berger et qu'il allait donner sa vie pour nous. Mais le mercenaire, qui n'était pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Un peu plus loin, toujours dans Jean 10, au verset 27, 28, 29, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jésus était le bon berger, puis il nous a parlé qu'il voulait prendre soin de ses brebis. Puis il savait que le diable voudrait les disperser. Puis on a vu dans Matthieu, mais aussi dans d'autres évangiles, qu'après avoir chanté les cantiques, Jésus s'était rendu avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Puis là, Jésus leur a dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Fait qu'effectivement, les disciples ont été dispersés, ils ont été affectés, parce que Jésus a été arrêté, parce qu'il a été traduit en justice, parce qu'il est mort. Puis leur âme a été troublée parce que il était parti, il était loin de leurs yeux, puis ils ne comprenaient pas. Mais on voit, à partir des chapitres suivants, que Jésus, quand il est ressuscité, a tout de suite repris sa fonction de bon berger, puis il est venu pour prendre soin de chacune de ses brebis. Merci, Jean. Donc, le matin, dans Luc, on voit qu'au premier jour de la semaine, les femmes qui avaient bien observé à quel endroit on avait déposé le corps de Jésus se sont rendues au sépulcre de grand matin en portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles ont trouvé que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et étant rentrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Et elles ont cru. Jésus les avait avertis plusieurs fois à l'avance. Jésus, notre bon berger, a pris soin de ces petites brebis qui étaient dispersées parce qu'il y avait eu un moment difficile qui avait suivi sa mort. Dans Matthieu 28, on voit que ces femmes-là se sont éloignées du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles ont couru porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et il leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Alors, on voit que le bon berger, là, il savait déjà à l'avance que ses brebis seraient dispersées, qu'elles seraient affectées, qu'elles vivraient une attitude de deuil ou de tristesse. Mais tout de suite, dès sa résurrection, il a pris soin de ses brebis. Il est allé les voir. Il a pris soin d'elles. Il s'est occupé d'elles tout de suite, tout de suite. Dans Luc 24, au verset 9, on voit qu'à leur retour du sépulcre, elles ont annoncé toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Les autres, là, on ne sait pas tout à fait c'est qui. Moi, je me dis que ça doit être sûrement les 70. C'est parce qu'on mentionne qu'il y avait les 11 et tous les autres. Puis on sait que Jésus, à un moment donné, il a envoyé 70 de ses disciples prêcher dans les villages pour préparer le chemin avant que lui-même se présente. Puis au moment où les 70 ont fait ça, on voit qu'ils ont vu des guérisons, ils ont vu des démons être chassés. Puis ils étaient remplis de joie parce que ils voyaient que ce que Jésus leur avait demandé de faire, c'était quelque chose de possible, puis que c'était une bonne nouvelle qu'il annonçait. Donc, tous les autres, moi, je me suis imaginé que c'était les 70. Et donc, il y avait plusieurs personnes rassemblées ensemble dans la tristesse. Et là, les femmes arrivent puis leur disent, le Seigneur est vivant, on l'a vu, il est ressuscité. Mais au verset 11, ça nous dit, il tinrent ses discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Et pourtant, Jésus, bien avant sa mort, avait déjà commencé à les instruire et leur dire qu'il était pour mourir, qu'il était pour ressusciter après le troisième jour. Dans Matthieu 12, on le voit, Jésus, déjà, à ce moment-là, il vient de recevoir, il est en train de discuter avec les pharisiens, il vient de guérir un démoniaque qui était muet, et les pharisiens l'ont accusé d'avoir chassé le démon puis d'avoir guéri cette personne-là parce qu'il était lui-même serviteur de Belzébul. Et après que les pharisiens l'ont accusé de cette façon-là, Jésus a parlé aux scribes parce que là, ils sont venus avec arrogance lui dire « Mais pourrais-tu nous faire un signe pour qu'on puisse croire? » Alors Jésus a dit une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, Jésus avait déjà averti ses disciples qu'il mourrait, qu'il serait absent pendant 3 jours et 3 nuits, puis qu'il ressusciterait. Mais les scribes aussi l'avaient bien entendu. À partir de ce moment-là, Jésus a commencé à enseigner avec des paraboles parce qu'il voyait que les gens en général, puis les juifs, les scribes en particulier, n'étaient pas prêts à recevoir son message. Un peu plus tard, toujours dans Matthieu, au chapitre 16, on voit que Jésus, là, s'est mis à le faire d'une façon systématique, à enseigner à ses disciples. On dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il savait, il l'avait entendu, mais il semblerait qu'il ne l'avait pas vraiment reçu, emmagasiné, il n'avait pas cru à ce moment-là quand Jésus l'a dit. Jésus en a reparlé encore dans Matthieu, au chapitre 17. Ça dit, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Et on voit que les disciples ont été profondément attristés. C'est comme s'ils entendaient la première partie du discours. On va me faire souffrir, je vais mourir. Puis ils n'entendent pas la fin. Ils n'entendent pas quand il dit qu'il va ressusciter au bout de 3 jours. Ils sont attristés. Et même un peu avant Pâques, et là c'est Luc qui nous en parle, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Et au verset 34, on nous dit, « Mais ils ne comprirent rien à cela, et c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. » Alors, c'était les disciples, ils ont vécu avec Jésus au jour le jour, au quotidien. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont entendu parler du Père. Puis quand Jésus leur parlait de ça, ils l'ont pas retenu, ils l'ont pas enregistré. Ça les laissait dans la tristesse, ils comprenaient pas. Mais les sacrificateurs, eux autres, ils ont entendu. Puis eux autres, ils l'ont retenu. Parce que dans Matthieu 27, ça nous dit le lendemain du moment où il a été crucifié, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait, encore après 3 jours, et je ressusciterai. Et là, ils ont demandé que le tombeau de Jésus soit gardé pour pas que les disciples viennent le voler. Les pharisiens se souvenaient, eux, que Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Mais les disciples, ceux qui vivaient avec Jésus au quotidien, ils ne semblaient pas s'en souvenir, en tout cas. Dans Luc 24, on voit que Pierre, quand il a entendu les femmes parler, s'est rendu au sépulcre, s'est rendu au tombeau. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et au verset 13, on voit qu'en ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Les disciples ont vécu des choses difficiles en voyant leur maître être crucifié. Ils sont dans la tristesse, ils sont dans le deuil. Là, ça fait 3 jours. Ils sont restés à Jérusalem parce que c'était la fête de Pâques. Il y a eu 2 journées de sabbat proches. Quand Jésus est mort, c'était une journée de sabbat spéciale parce que c'était la première journée de la fête. Mais cette journée-là était suivie par le sabbat normal de la semaine. Et au premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Donc, Jésus est resté 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Les disciples n'ont pas pu partir de Jérusalem parce que la prescription dans ce temps-là, au moment du sabbat, c'est qu'il y avait une limite de pas, il y avait une limite de distance. Il avait le droit de franchir un chemin de sabbat dans une journée, la journée du sabbat, puis après ça, ça s'arrête. Mais une journée de sabbat, un chemin de sabbat, ça, la distance que ça couvrait, c'était 1 kilomètre. Donc, il avait le droit de marcher pendant 1 kilomètre, puis après ça, il marchait plus, là. Donc, après la mort de Jésus, les disciples, ils sont pas partis. Ils sont restés à Jérusalem. Ils sont restés sur place parce qu'ils pouvaient pas. C'était une journée de sabbat. Et là, après ces 3 jours-là, et c'était une coutume que les gens considéraient que si après 3 jours, la personne était pas revenue à la vie ou était pas sur ses 2 pieds, c'était un signe évident que la personne était vraiment, vraiment, vraiment morte. Donc, il y avait comme un 3 jours de délai où les gens restaient dans l'incertitude, puis, tu sais, bon. Mais au bout de 3 jours, tout le monde était certain que la personne était raide morte. Donc, au bout de ces 3 jours-là, les sabbats sont terminés, c'est le premier jour de la semaine, ça fait 3 jours que Jésus est parti. Bon, ben, on retourne chez nous. Donc, on voit que Pierre est retourné chez lui, que les disciples d'Emmaüs retournaient vers leur maison parce qu'ils étaient dans la tristesse, parce qu'ils étaient convaincus que Jésus était mort puis que tout était terminé. Et pendant qu'ils marchaient, au verset 14, on voit qu'ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils discutaient, Jésus s'est approché d'eux. Jésus, le chemin. Hein, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus, qui était le chemin, est venu sur le chemin d'Emmaüs prendre soin de ses brebis, prendre soin de ses disciples qui l'ont côtoyé pendant toutes ces années, mais qui sont actuellement remplis de tristesse, qui sont dans le deuil parce que Jésus n'est plus là, il n'est plus devant leurs yeux. Ça nous dit au verset 16 que pendant qu'ils marchaient avec lui, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Puis là, je me suis questionnée, qu'est-ce qui les empêchait de le reconnaître? Et là, oups, excusez. Viens, chérie, viens. Alors, tu veux regarder ma feuille avec moi? Ce qui les empêchait de le reconnaître, c'était leur tristesse. On voit dans le Proverbe 15 qu'un cœur joyeux rend le visage serein, mais qu'un visage triste rend l'esprit dans l'abattement. Leur esprit était abattu. Ils étaient dans la tristesse, ils étaient dans le deuil. Parce qu'ils étaient tristes, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Ils étaient dans leur bulle, ils étaient dans leurs émotions, ils étaient dans leurs sentiments. Ils n'étaient pas disponibles pour se rendre compte que la personne qui marchait devant eux, qui marchait avec eux, était Jésus. Et là, Jésus voyait bien qu'ils étaient tristes. Il leur a dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant et pour que vous soyez tous si tristes? » Et là, ils ont raconté à Cléopas, a dit à Jésus, « Mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »« Quoi? » leur dit Jésus. Et ils répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, le prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et là, il racontait comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici, c'est le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc, Jésus n'a pas été reconnu par ses disciples, un, parce qu'ils sont tristes, mais je me suis dit peut-être aussi que l'aspect général de Jésus devait être différent, un peu comme après la transfiguration. On voit dans Luc 9, 28, que après ça, quand ils sont montés sur la montagne pour prier, pendant qu'ils priaient, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et on voit dans Jean, au chapitre 20, que Marie, quand elle a vu Jésus, elle l'a pas reconnu, elle non plus. Ça dit qu'elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensait que c'était le jardinier. « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je vais le prendre. » Même Marie qui était remplie d'une passion dévorante pour Jésus, elle l'a pas reconnu. Fait que je me suis dit, si leurs yeux ont été empêchés de le reconnaître, c'était possiblement par la tristesse, mais aussi parce que l'aspect de Jésus ressuscité dans son corps glorifié devait faire en sorte que les gens, a priori, sur le coup, ne l'ont pas reconnu. Une autre chose qui a fait peut-être que les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu, comme on voyait tantôt dans Luc 24 au verset 21, ils avaient l'espoir que Jésus était le Messie attendu. Mais à leurs yeux, le Messie, c'était la personne qui, de façon concrète, de façon politique, était pour venir renverser le régime romain, puis faire en sorte que la volonté de Dieu soit manifestée. Donc, ils attendaient un chef politique, ils attendaient quelqu'un qui les délivrerait physiquement, comme Moïse l'avait fait au moment de l'Exode. Ils ne s'attendaient pas que le Messie mourrait et serait mis au tombeau, ressusciterait. C'était pas ça leur vision du Messie. Donc, ils étaient déçus. Puis en Proverbe 13, ça dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Alors, leur cœur était malade. Leur esprit était dans l'abattement. Ils étaient dans la tristesse. Ils étaient dans un processus de deuil parce que Jésus était, à leurs yeux, encore mort. Et là, il y a une petite lueur d'espoir. On le voit pas là, dans le texte là, qui est noir sur blanc dans nos bibles, mais moi, j'ai l'impression que dans leur voix, il y avait peut-être comme un petit tressaillement là, dans la voix, un petit quelque chose là, qui disait, « Ouais, mais c'est vrai que les femmes qui sont venues nous ont fort étonnés. Elles s'étaient rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire aux gens que des anges leur sont apparus et nous ont annoncé qu'ils étaient vivants. » Et dans le verset suivant, ben là, on retourne dans la mélancolie. « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors, ils sont retombés dans la mélancolie. Fait que là, Jésus, le bon berger, hein, il prend soin de ses brebis qui sont dispersées par la nouvelle de sa mort. Il les écoute, hein, il prend le temps de les écouter. Il dit rien jusque-là. Il est disponible, il est attentif. Puis là, il se dit, bon, là, c'est assez. Donc, après avoir pris le temps de les écouter, Jésus dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qui a été dit par les prophètes. » Jésus, c'est pertinemment lui qui est la parole de Dieu, que la foi vient de ce qu'on entend, hein, dans Romains 10, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, Jésus s'est mis à leur enseigner à partir de Moïse jusqu'aux prophètes, dans Luc 24, versets 26-27, ça dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Alors il entra et il est resté avec eux. Au verset 30 et 31, on voit que pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Pendant qu'il a rompu le pain, ils ont vu les traces des clous dans ses mains. Ils ont vu les plaies sur ses mains. Ils ont vu que c'était Jésus qui était devant eux, qui était ressuscité. Alors là, la joie les a envahis. Et ils sont retournés auprès des frères pour partager avec eux la joie et l'espoir. Ils ont dit au verset 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Alors, ils se sont levés à l'heure même, ils sont retournés à Jérusalem et ils l'ont trouvé les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Ah. Chérie, je vais te demander d'aller rejoindre maman, s'il te plaît, ou de rester assis sur la chaise, parce que là, je ne peux pas voir ma feuille. Est-ce que tu choisis la chaise ou tu vas avec maman? Merci. Donc, je disais, ils se sont rendus, et là, leur cœur était rempli de joie, leur cœur était rempli d'allégresse, parce que là, ils étaient convaincus, ils croyaient, ils avaient vu leur Seigneur vivant, il était ressuscité. Et là, à l'heure même, ils sont partis pour se retourner à Jérusalem. On voit dans Luc 24, au verset 34, que quand ils sont arrivés, ils ont parlé à tous ceux qui étaient là, aux 11 et à ceux qui étaient avec eux, donc ceux qui étaient là le matin. Et ils ont dit tout ce qui leur était arrivé. Et au verset 34, ça dit, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Donc, pendant que les disciples d'Emmaüs remarchaient les 10 kilomètres à rebours pour retourner à Jérusalem, Jésus a pris le temps d'aller soigner le cœur de Simon-Pierre. On ne sait pas les détails, on n'a pas de traces écrites de ce qui a été la conversation qu'il y a eu entre Jésus et Pierre à ce moment-là. Mais Jésus est apparu à Pierre, il est allé soigner le cœur de Pierre, il est allé se manifester à lui. Et là, tout le monde s'est réjoui ensemble de ce que Jésus était ressuscité. Et les disciples d'Emmaüs ont raconté ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils étaient pour rompre le pain. Donc, tandis qu'ils étaient là, Jésus est apparu à tout le monde cette fois-là, les 12, ben les 11, plus les autres qui étaient peut-être les 70, peut-être les 120 même qui étaient dans la chambre haute, on n'a pas de détails, mais Jésus leur est apparu. Et là, Jésus leur a dit, « La paix soit avec vous. » Là, tout le monde était saisi de crainte et d'épouvante. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Pouvez-vous croire Il était là devant eux autres. Il y avait les femmes, Simon-Pierre, les disciples d'Emmaüs qui leur avaient raconté qu'il était ressuscité. Il était là devant eux, puis là, ils ne croyaient pas encore. Alors, comme ils étaient dans l'étonnement, Jésus a dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il recommence. Il repart avec Moïse, les prophètes, les psaumes, puis il parle de tout ce qui parlait de lui, puis qui était une preuve qu'il était le Messie attendu. Et il leur dit ainsi, « Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Alors Jésus a pris le temps aussi de nourrir la foi des 70 ou des 120 qui étaient là, en reprenant les prophéties, en partant de Moïse, les prophètes, les psaumes, pour manifester comment la parole, puis à ce moment-là, c'était l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit du tout, là, comment partout dans la parole, les prophéties parlaient de lui, parlaient de la façon dont il devait venir, pourquoi il devait venir, comment il devait mourir, comment il devait ressusciter. Alors, Jésus a nourri la foi de ses disciples. On voit comment le bon berger a pris soin de toutes ces brebis qui avaient été, oui, dispersées momentanément, mais qui a pris soin d'eux. Jésus, c'est le bon berger, puis c'est ce bon berger-là, c'est notre berger à nous aussi. C'est lui qui est ici avec nous aujourd'hui. Puis c'est lui qui a pris soin au travers de toutes les années de ce petit troupeau, de cette petite assemblée qui est la nôtre. On a fêté l'année dernière, à l'automne dernier, les 25 ans de cette assemblée. Pendant toutes ces années, le Seigneur, le bon berger, a pris soin de nous, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les fois où il a touché les bergers qu'il nous prête. Le Seigneur, le bon berger, continue de prendre soin de nous. Il est avec nous ce matin, il est ici et il veut venir nourrir notre foi, il veut venir nourrir notre cœur, il veut relever notre cœur, il veut chasser la tristesse, puis il veut remplir notre cœur de foi puis d'ardeur pour lui, comme le partageait ce matin Francis. Hein, ce que Dieu veut qu'on considère, c'est la victoire qu'il a acquise pour nous. Amen. On a vu que les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus au moment où ils étaient pour partager le pain, au moment où Jésus a rompu le pain. Et ce matin, nous allons nous autres aussi prendre du temps pour prendre la communion. Puis je voulais vous partager comment cette semaine j'ai vu un texte qui a vraiment réjoui mon cœur. Vous savez comment est-ce que j'aime les traditions juives. Puis on voyait dans ce texte-là que au moment où Jésus a rompu le pain et a partagé le vin avec ses disciples, c'était les signes qui accompagnaient un contrat de fiançailles. Normalement, quand il y avait des fiançailles juives, il y avait le père du marié qui quittait la maison avec son fils, qui se rendait en visite dans la maison du père de la fiancée. Et là, les deux familles étaient ensemble, se rencontraient et avait lieu le contrat de mariage, le contrat qui était pour unir les deux personnes au moment où la noce serait célébrée. Au moment où le père venait avec son fils rencontrer la future épouse, il apportait, le fils apportait une dot, il apportait un cadeau. Il fallait que ce cadeau-là soit quelque chose de précieux pour le futur époux. Il fallait que ce soit quelque chose qui, pas quelque chose qu'il avait acheté au bazar du coin, là, pas une babiole, là, mais quelque chose de précieux, puis quelque chose qui le représentait. Puis il offrait ça à sa future épouse. Puis ce soir-là, Jésus a dit que, en signe d'alliance et de fiançailles, il offrait sa vie pour nous. Donc, le cadeau qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a donné sa vie afin qu'on puisse avoir la vie éternelle puis qu'on puisse entrer en relation avec le Père. Dans cette cérémonie de fiançailles-là, il y avait aussi un partage d'une coupe de vin. Et au moment où la coupe de vin était partagée, le vin était versé, puis là, le fiancé disait à sa future, il disait, « Cette coupe est une alliance avec mon sang que je t'offre. » Et quand le fils partait avec son père pour retourner chez lui, parce que souvent le mariage avait lieu minimalement un an plus tard, la coupe qu'il avait apportée avec le vin restait dans la maison de l'épousée et de la future épouse, et elle apprenait régulièrement une gorgée dans la coupe de vin en mémoire de l'alliance qui venait d'être faite avec son futur époux. Alors, quand Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'était un repas de fiançailles. Jésus était en train de signer un contrat, une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance avec le genre humain. Il était en train de nous dire qu'il nous donnait un cadeau de prix, sa vie. Il partageait avec nous la coupe de fiançailles, puis il nous la laissait en souvenir pour qu'on se rappelle de son alliance. Alors, chaque fois qu'on prend la coupe, c'est pour se rappeler de nos fiançailles. En attendant le jour des noces. Donc, moi, ça m'a béni beaucoup quand j'ai lu ça, puis je me disais, waouh, je pense que je ne verrai plus jamais la Sainte-Seine de la même manière. Parce que oui, le vin nous rappelle le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Oui, le pain nous rappelle le corps de Jésus qui a été brisé pour nous. Mais en plus, Jésus nous a demandé de le faire en mémoire de lui pour se souvenir de cette alliance, pour se souvenir qu'on est sa fiancée, pour se souvenir qu'il nous attend pour célébrer les noces, pour nous rappeler de garder en feu notre cœur, pour nous encourager à nous garder, à nous préparer, parce qu'une fois que ce repas de fiançailles-là était célébré, le fiancé s'en retournait avec son père, puis allait préparer une place pour recevoir sa future épouse. Il allait préparer la maison. Puis la jeune femme, elle se préparait pour les noces. Alors, le repas, le repas de la Sainte-Seine, comprend, c'est pour nous rappeler, nous encourager à mettre tous nos efforts à nous préparer, à préparer notre cœur pour qu'on soit prêt quand le Seigneur va revenir, pour faire partie des vierges sages qui mettent la lampe sur la tablette de la fenêtre. Puis ça aussi, ça faisait partie du rite des fiançailles. Quand la fiancée mettait la lampe à la fenêtre, c'était pour dire à son fiancé qu'elle s'était préparée, qu'elle était prête pour son retour. Et là, pendant la nuit, le fiancé partait de sa maison, s'en venait pendant la nuit et venait rencontrer à la maison de son père sa fiancée. Il la prenait, il l'amenait avec lui jusque dans la maison qu'il avait préparée pour elle. Et là, était consommé et préparer la noce. Donc, Jésus va revenir éventuellement nous chercher et on va célébrer avec lui les noces. Mais en attendant, il faut qu'on soit prêt. Alors, ce matin, quand on va prendre la scène, ben, gardons dans notre cœur cette pensée que notre fiancé nous attend. Puis prenons du temps pour préparer nos cœurs, hein, faire en sorte qu'on utilise, on profite pleinement de ce cadeau qu'il nous a fait de nous accorder son Saint-Esprit pour nous aider à nous purifier, pour nous aider à devenir pour lui cette épouse pure, sainte, sans tache qu'il vient chercher. Fait que ma prière, c'est qu'on ait tout à l'heure un très bon temps autour de la Sainte-Seine, tout le monde ensemble. Puis là, je vois que Sylvie est arrivée. Est-ce que tu aimerais partager quelques mots avec nous au sujet de notre très cher Jean-Pierre?
Merci. Merci. Ah, quoi? Je vais me mettre de l'aide. Allô? J'arrive de là, et là, il est capable d'aller à la salle de bain tout seul. Il n'y a plus besoin non plus d'oxygène non plus. Sa saturation est redevenue normale. Et là, il reste un peu d'arythmie. Le cœur s'emballe parfois, là. Fait que là, il manque ça à régler avant qu'il laisse sortir. Parce qu'à part ça, là, il laisserait sortir. Fait que les prières ont fait l'effet. Merci Seigneur. Puis moi aussi, ça paraît moi aussi physiquement, là. Je suis vraiment contente aussi, là. Parce que c'était spécial. On est vraiment une famille, hein. Puis, merci aussi de respecter, là, parce que quand lui, il file pas, il veut pas avoir de visite. C'est normal. Fait que merci d'avoir respecté ça aussi. Fait que ça va bien, là. Fait que je vais vous dire quand est-ce qu'il va sortir, là. Je sais pas, là. Demain ou après-demain, là. Fait que, merci Seigneur.